que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
L'accès à l'eau potable reste difficile dans plusieurs parties du pays et plusieurs personnes en milieu rural et dans les centres urbains n'ont pas accès à l'eau potable. Les gens consomment régulièrement les eaux des puits, les eaux des rivières et généralement cette eau est souvent à la base de plusieurs maladies qu'on appelle les maladies d'origine hydrique. Alors aujourd'hui, comment améliorer l'accès à l'eau potable? Comment faciliter l'accès à l'eau potable dans plusieurs endroits où les gens n'ont pas cette facilité? Bien, on en parle avec Dr Cyril Kiyungu, il est expert en développement. Dr Cyril, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Radio Kati.
Alors, quelles sont d'abord les raisons qui font que l'eau potable reste difficile pour bon nombre de Congolais, que ce soit en milieu rural ou dans les centres urbains?
Bien. Nous estimons qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est distinguons le milieu urbain des milieux ruraux. Dans le milieu urbain, par exemple, je prends l'exemple de Kinshasa. Le courant électrique est là. L'eau, il faut le dire, au Congo, c'est un scandale. Un scandale hydrographique. C'est parmi les régions du globe où il y a le plus d'eau après l'Amazonie. L'eau douce, vous le savez. Mais l'eau ne pose donc pas problème au Congo. C'est un problème d'énergie. La SNEL ne donne peut-être pas assez de courant dans les milieux urbains pour que la régie des eaux puisse desservir permanemment en eau. C'est là où nous soutenons les mesures contraignantes, telles que éteindre les ampoules la journée, des mesures très simples. Éteindre toutes les ampoules à Kinshasa ferait gagner autant de mégawatts à la semaine, donc la régie des eaux pourrait disposer de l'énergie suffisante pour donner de l'eau à ceux qui n'en ont pas. Parce que l'eau, il y en a. L'eau salubre, il y en a à Kinshasa. Mais l'énergie, aussi la culture du Congolais, lorsque les robinets sont en panne, eh bien, vous allez voir que l'eau coule en permanence et personne n'a l'idée, la citoyenneté ne vient pas. On doit fermer l'eau pour que l'autre puisse en avoir. Donc, chaque fois que l'eau coule de vos robinets, il faut savoir que l'autre, votre voisin, n'en aura pas. Il en va de même dans les services publics, etc. Ça, c'est des mesures simples que nous proposons que ça devienne contraignante, c'est-à-dire au niveau des communes, il y a des taxes là-dessus. Non pas pour que...
Alors, docteur Cyril, on retient, oui. Vous avez dit dans les centres urbains, s'il y a des problèmes d'accès d'eau, c'est d'abord par manque d'énergie, oui. Pour faire fonctionner les installations de la régie des eaux, pour pomper l'eau, et vous avez dit, il y a aussi les fuites, les fuites qu'on retrouve un peu partout, et la mauvaise utilisation par les consommateurs. Alors dans un milieu rural, quelles sont les raisons qui expliquent le manque d'eau potable?
En général, en milieu rural, il n'y a pas d'électricité, tel qu'ici chez nous à Kikwit, à Idiofa, à Gungwa, Boulongo, ici dans les Kwilu, il n'y a pas d'électricité, pas du tout. Alors la régie des eaux a des problèmes de pomper l'eau, mais l'eau, il y en a à la station de la régie des eaux. C'est ainsi que quand je suis devenu maire, j'ai séparé l'eau d'utilisation de l'eau de consommation. J'ai produit un micro-barrage hydroélectrique, ici à Kikwit, et j'ai fourni l'eau, moi. J'ai fourni de l'eau à une partie de la ville pour montrer l'exemple. Mais de l'autre côté, j'ai produit le projet JAR, donc des vases en ciment de plus ou moins 500 litres. J'ai capté l'eau des pluies et je disponibilise l'eau pour les toilettes, dans les écoles, dans les centres de santé, dans les maisons. Si déjà dans nos toilettes devenaient des toilettes salubres, et que les insectes ne font pas de va-et-vient entre les toilettes et les tables, mais les maladies de mes salles vont s'arrêter.
Alors, docteur Cyril, dites-nous, pour ceux-là qui n'ont pas accès à l'eau potable, que ce soit en milieu rural ou dans les centres urbains, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour améliorer l'accès à l'eau potable?
Voilà, disons que au Congo, il y a de l'eau potable. Nous devons d'abord avoir la volonté politique. Les initiatives existent, on doit les soutenir. Nous avons donné les mesures simples. Le ministère des Plans, par exemple, lorsque il y a un projet de développement qui arrive et qu'on mette directement un volet eau. Comme ça, dans les milieux ruraux, il y aura de l'eau. Parce qu'il y a des sources naturelles qui donnent de l'eau. Dans des provinces où ce sont des plaines, on peut faire des forages artésiens. Moi, je ne soutiens pas les forages avec mazout. C'est la même chose que la régie des eaux, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous aurons les mêmes difficultés. Donc, nous faisons des forages artésiens, même à Kinshasa, à Matete, à Lemba. Vous avez vu, les Belges avaient déjà laissé des puits. Mais l'environnement étant pollué, on ne peut plus accéder à cette eau-là. Donc, voilà à peu près. Mais il y a aussi l'état d'esprit des Congolais. Nous utilisons beaucoup de téléphones, beaucoup de belles voitures, des bijoux en or, des mèches, mais on ne s'occupe pas de nos toilettes, on ne s'occupe pas de l'eau.
Voilà, vous dites que, oui, docteur Cyril, pour avoir l'eau, l'eau potable dans les milieux où il n'y en a pas, donc il faut recourir aux forages. Vous avez parlé des forages artésiennes, c'est ça?
Forages artésiennes, des micro-centrales hydrauliques, telles que moi je le fais ici à Kikwit. C'est connu de tout le monde. Ça pompe sans mazout. Ça ne coûte pas cher. Moi, je suis pas riche, je le fais. Et tout un quartier de 45 000 habitants, ils ont de l'eau. Pourquoi ne pas vulgariser ça à travers la République démocratique du Congo?
Et comment cette centrale fonctionne exactement, cette micro-centrale hydraulique?
Mais je prends des grands cailloux, je fabrique un barrage artisanal avec les gens du village. Une fois que l'eau est montée en hauteur de 2-3 mètres, je la dévie, je mets dans les tuyaux et puis je tourne une turbine. Une fois que l'énergie hydraulique de la rivière est passée sur l'axe, donc les rotors, je peux tourner les pompes à piston et avoir 100 mètres cubes par jour. Et voilà. C'est plein à travers toutes les villes de Bandundu, on peut le faire. C'est une question de volonté politique, ils le savent.
Bien, je reviens à vous dans quelques instants, le temps d'accueillir Dieu merci, qui nous appelle des Manono. Comment améliorer l'accès à l'eau potable? Vous avez des problèmes d'accès à l'eau potable dans votre milieu? Appelez-nous au 081-890-63-94 pour participer, pour poser vos questions à notre invité.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur RadioCapi.net.
Comment améliorer l'accès à l'eau potable? Dieu merci, nous appelle de Manono. Doudou Kadima se trouve à Mbujimayi. On commence avec Dieu merci de Manono. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Louis.
On vous écoute, Dieu merci.
Oui, moi j'ai des questions, puis je demande des conseils à l'invité. Des conseils qu'il peut donner aux personnes qui habitent dans le milieu le plus reculé, souvent à leur vie rurale. Ok, moi la première question c'est de demander à notre invité, partant de ses expériences, est-ce qu'il y a l'espoir pour les Congolais qui vivent en milieu rural un jour d'être en mesure de séparer l'eau, hein, comme l'a dit Omar qui était maire de ville, l'avait permis à la population ou aux habitants de l'entité où il vivait de séparer l'eau d'utilisation et l'eau de consommation. Est-ce qu'il y a aussi cet espoir pour le Congolais? S'il y a cet espoir, qu'il puisse justifier cet espoir, c'est à partir de quoi que les Congolais pourront peut-être arriver à ce sens aussi de séparer l'eau d'utilisation et l'eau de consommation.
Bien, merci.
La problématique de la carence d'eau, monsieur le journaliste, à mon nom ici, vraiment, c'est vraiment une équation difficile à résoudre.
D'accord.
Une équation difficile à résoudre. Vous trouvez même des petites fillettes là qui doivent être à l'école, souvent arrivent à l'école avec retard. Maintenant, pour que la population puisse trouver l'eau en qualité et en quantité, que peut nous dire notre invité là-bas? Là, il peut nous donner quels conseils, il peut nous donner quelles techniques. Pourquoi? Parce qu'on a constaté à Manono, il y a des ONG qui viennent forer des puits. Hein? Parfois des puits, et des puits qui forent des monuments, pas l'eau,
Dieu merci.
C'est le problème du sol,
d'accord.
Le sol, on ne sait pas jusqu'à
là.
Lui, en tant que technicien, peut nous donner des conseils.
Merci. Doudou Kadima, vous êtes à Mbujimaï, soyez bref, hein, ne parlez pas beaucoup comme Dieu merci. On vous écoute, bonjour.
Oui, bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question, Doudou?
En fait, nous avons passé plus de 2 mois ici en Mbujimaï, sans l'eau ni l'électricité.
Mm-hmm.
Donc, moi je peux dire que ici au Congo, nous ne manquons pas l'eau potable. Il y en a, mais c'est un problème du courant. Donc, j'ai deux petites préoccupations à poser à l'invité. La première est la suivante.
Mm-hmm.
Comme on s'est rendu compte que si on espère l'État, parce que vous verrez, je dis Daniel Kachama, l'eau qui coule une seule fois pour 1 mois, mais on va vous taxer plusieurs factures.
Et quelle est la question
de vous? Au moment où vous avez trouvé, au moment où l'eau a coulé plus d'une fois.
Mm-hmm.
Maintenant, ma question est la suivante. Dans notre quartier, on a une initiative de créer une borne fontaine. Maintenant, je pose ma question à l'invité. Comment est-ce que nous pouvons faire? On peut commencer par où? Ça, c'est ma première question. Maintenant, pour les milieux ruraux, je peux dire ceci à l'invité. Quand est-ce qu'ils auront aussi l'eau potable, M. Jody? Parce que les eaux qu'ils utilisent, M. Jody, c'est vraiment déplorable. Bon, je ne sais pas si quand est-ce que ces Congolais-là auront aussi accès à l'eau potable, M. Jody.
D'accord, merci Doudou.
Récemment,
merci.
J'étais à
oui.
Kabinda, M.
Oui.
Jody, si vous voyez de l'eau qu'ils consomment,
ouais.
C'est déplorable.
Ouais,
et
voilà.
Quand est-ce qu'ils auront aussi de l'eau potable?
D'accord. Merci, Docteur Cyril Kiyungu, vous avez suivi les deux auditeurs.
Merci pour les préoccupations.
Le premier...
Il y en a, et il y en a tout plein, parce que, nous avons un pays riche en eau. Deux, nous avons de plus en plus de personnes, je ne vais pas citer mon exemple, mais qui maintenant se débrouille dans ce domaine. Je suis médecin. J'ai été frappé par Ebola en 1995. Ça fait un coin de voile de vérité que je vous révèle aujourd'hui. Mais Ebola est aussi une maladie mentale. Nous avons pris des mesures draconiennes, docteur Emery Bewa et moi, à l'hôpital Kikui 2 en 95. Là, c'est laver les mains et ça nous a permis de préserver la vie des infirmiers à cette époque-là.
Bien, docteur Cyril, adieu, merci, qui vous demande quels conseils donner aux habitants de Manono qui n'ont pas accès à l'eau potable. Vous avez parlé de la mise en place d'une micro-centrale hydroélectrique. Bon, s'il n'y a pas de moyens pour mettre en place cette centrale, quelles sont les autres techniques auxquelles les gens peuvent recourir pour avoir l'eau potable?
Ce que nous avons fait, c'est d'abord de chercher une source. Donc, on doit faire comme un explorateur. Hein? Les Belges ont exploré le Congo pour eux. Nous devons explorer le Congo pour nous. Il y a des potentialités à Manono. Si vous m'invitez à Manono, je serai heureux de vous accompagner. Et là, nous allons voir les alentours de Manono, là où l'environnement est encore propice. L'eau est saine. Nous allons voir les sources qui débitent d'elles-mêmes. On va les aménager. Une fois qu'on les a aménagés, on va voir à côté s'il y a une rivière. Mais ensemble, vous allez voir ce qu'on a fait. Il ne s'agit pas d'argent. Moi, je suis pas riche. C'est la volonté, l'initiative ferme. Vouloir aimer son pays. Donc, nous allons trouver localement des choses qu'il faut utiliser pour monter une petite centrale simple comme ce que j'ai fait ici.
Alors, Doudou,
moi, j'ai fait ça
oui,
avec,
bien sûr.
Avec des moellons, de la pierre, des feuilles de palmiers et tout ça. Les gens du village ne sont pas bêtes, vous savez.
Oui, bien sûr. Ouais, alors, mais comment vulgariser maintenant cette technique-là de création d'une micro-centrale hydraulique?
C'est là où nous invitons l'autorité. Ils ont visité, ils savent, je ne peux pas les citer, nous sommes à la radio. Mais puisqu'ils ils peuvent se souvenir de leur visite à Kikwit, du résultat qu'ils ont vu, et en faire au ministère des Plans un petit projet. Et nous allons d'abord dévoiler le Congo par rapport à nos besoins, par rapport à nos potentialités, Et ça va aller vite, je crois, les 2 ans, les 5 ans qui suivent, la régie des eaux pourra être appuyée. Nous aurons de l'eau.
Alors,
l'eau, il y en a.
D'accord. Docteur Cyril Doudou nous dit qu'ils ont une initiative, lui et les autres, d'autres personnes en bougement, ils ont l'initiative de créer une bonne fontaine. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à cette initiative? Comment,
oui, je dirais que les bornes fontaines, c'est bien, mais j'ai insisté, les bornes artésiennes, c'est-à-dire des endroits qui sont des plaines, si on fort, l'eau va sortir d'elle-même, avec une force souterraine. Elle sort déjà en surface, et là, on n'a qu'à la canaliser, à la mettre dans les réservoirs. Mais s'il faut utiliser encore une pompe, introduire une pompe là-bas, vous arrivez à la formule mazout. C'est la formule qui bloque la régie des eaux aujourd'hui. Et là, je ne comprends pas toutes les bornes que la SNHR fait à travers le Congo, où il y aura à utiliser le mazout, alors que le cours d'eau à côté peut donner l'énergie hydraulique sans mazout pour pomper. C'est là où je ne comprends pas au Congo. Comment on n'arrive pas à faire le pas pour utiliser la potentialité hydroélectrique? S'il n'y avait pas d'intelligence hier, mais il y en a aujourd'hui. Donc c'est un problème qu'on se mette ensemble et qu'on vulgarise la technique. Elle est là.
Voilà, la technique est là, mais vous dites que pour s'il faut mettre en place une bonne fontaine, il faut plutôt recourir au forage artésien, c'est ça?
Oui, c'est ça qui est mieux. Si c'était un forage simple, où vous allez introduire encore une pompe à 100, 200 mètres en profondeur, il vous faut du mazout. Et vous êtes capricieux des problèmes de Kadhafi là-bas. Alors, quelle est la solution que nous apportons?
D'accord.
C'est la même chose que la régie des eaux.
Bien. Amissi nous appelle de Kalima, fils est à Kananga. Amissi, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Amissi?
Ma question s'adresse au moi, l'invité. J'aimerais savoir la différence entre l'eau potable et l'eau pure.
Voilà, la différence entre l'eau potable et l'eau pure. Fils, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, je dis bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Ouais, je voulais juste profiter, comme nous parlons de l'eau potable.
Oui.
Ici, nous, à Kananga, on ne consomme pas, nous n'avons pas ni l'eau de la régie des eaux, ni l'eau de la fontaine. Nous consommons donc de l'eau de la source. Mm-hmm. Je voulais juste poser à l'invité une petite question. Par exemple, nous les autres, nous procédons donc au mécanisme de traiter de l'eau par les produits comme les chlorins, des fois les aquataps. Je voulais un peu demander à l'invité, avec ce traitement de l'eau, combien nous pouvons conserver cette eau-là et c'est pendant combien de temps qu'on peut conserver cette eau-là? Une autre préoccupation est de savoir, j'ai un constat déjà fait, quand il pleut, des fois nous consommons aussi même de l'eau de pluie. On prend cette eau-là, de pluie-là, et on la traite. On la traite avec les produits. Juste après avoir traité cette eau-là, vous trouverez que non, l'eau-là devient odorée. Ça donne donc une odeur quelconque. Je voulais maintenant savoir, avec cette eau-là qui devient déjà odorée, l'eau-là peut être potable ou bien il n'est pas potable? C'est un peu ça donc mes petites questions.
D'accord. Revenons à Missy d'Académie qui dit quelle est la différence entre l'eau potable et l'eau pure. Docteur Cyril.
Merci bien. Toutes ces questions nous ramènent à la première question qui disait l'eau de consommation et l'eau d'utilisation. Quelle différence vous faites, docteur Cyril? Oui. Moi, j'ai séparé l'eau de consommation et l'eau d'utilisation. Pourquoi? Parce que le corps humain est constitué de l'eau. C'est plus de 60% d'eau. Mais l'eau que nous buvons, on n'en a pas besoin de beaucoup. L'homme utilise, par exemple, disons, même exagérons, 3 litres d'eau par jour. Ces 3 litres d'eau, si vous avez une famille de 10 personnes, eh bien, 1,25 litres de bidon, ça suffit. Mais l'eau d'utilisation, pour aller à la douche, pour aller à la toilette, pour la vaisselle, la lessive, c'est cette eau qui nous tue. Parce que vous mettez ça à la charge des enfants. Et les petites filles ne vont pas aller étudier, ils sont traumatisés à la source. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai dit, dans un premier temps, on peut prendre l'eau des pluies pour utiliser, aller à la toilette, la vaisselle, la lessive, et souffrir seulement pour l'eau à boire.
Alors, donc,
et là, on vient l'eau potable et l'eau pure.
Oui, est-ce qu'il y a une
Je voudrais poser la question à l'intervenant. Où est-ce qu'il prend son eau qu'il est en train de traiter? Il peut y avoir une réponse là-dessus.
Non, l'intervenant n'est plus en ligne. Il veut juste savoir la différence qu'il y a entre l'eau potable et l'eau pure, hein, docteur Cyril.
Moi, je ne crois pas qu'il y a une différence. Voilà. Parce que l'eau potable dans nos villages, si la source est aménagée et que l'environnement est forestier, par exemple la savane naturelle, l'eau des sources est potable. Je ne crois pas à l'eau pure, en fait. Moi, je ne crois pas. Je suis médecin. Ouais. Pure, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ouais, vous savez pas ce que ça veut dire. Ouais. Comment améliorer l'accès à l'eau potable? On va accueillir Jean des Dieux, qui nous appelle dès qu'il quitte. Vous voulez également participer, appelez au 081 890 63 94.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, comment améliorer l'accès à l'eau potable? Nous avons Jean des Dieux en ligne depuis Kikwit. Bonjour. Jean des Dieux, vous êtes à Kikwit. Bonjour. Il n'est plus là. Et Sokoa est en ligne. Il nous appelle de Kindu, Mulungé. Et Sokoa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ok, moi j'ai une petite question que je voulais poser à l'invité.
Oui.
Parce que l'invité a éclairci, n'est-ce pas, donc, ce qui se passe au Congo. Nous avons un sérieux problème ici à Kindu. Il y a des manquements d'eau, en tout cas, nous fait des choses, des fois. Il y avait aussi une radio partenaire qui a parlé de ça aussi à Kindu. Mais ma question s'adresse à l'invité. Qu'est-ce que maintenant il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour trouver cette eau-là, dans différents quartiers ou dans différents milieux ruraux? Parce que, comment expliquer même à Kinshasa, là où il y a la capitale du Congo, là où il y a beaucoup vraiment d'autorités là-bas, mais il manque de l'eau. Mais comment dirais-je maintenant de différentes provinces? Est-ce que cela sera aussi possible à toutes les provinces? C'est là ma question.
Merci Sokoa. Je reviens à vous, docteur Cyril Kiyungu, fils des Kananga, poser la question de savoir si l'eau des sources est potable.
Oui. Je confirmerai que l'eau des sources, dans nos milieux naturels, dans nos villages, l'eau des sources est potable, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il faut l'aménager. Là où elle est, là où elle sort, il y a des feuilles mortes, des déjections. Vous enlevez ça, il y a toute une technique pour aménager. Nous pensons que chaque secteur collectivité, pour les jours qui viennent, doivent être dotés de quelqu'un qui sait, qui connaît l'assainissement des eaux. Comme ça, ils creusent un peu, ils trouvent l'origine même de l'eau. Ça coule même comme le sang hein, dans le corps humain. Et ils aménagent cet endroit, on met du béton. Et ça, on met un tuyau, ça coule maintenant comme l'eau de la régie des eaux, qu'on ne fait pas fermer. L'eau ainsi recueillie est potable, mon cher frère. C'est dire que bon, on parlait de l'eau pure. Chimiquement parlant, je dirais que l'eau pure, c'est H2O, tout simplement. Et que le reste des eaux, si vous estimez, c'est des H2O, plus les autres oligo-éléments. Mais quand on met eau pure de façon commerciale, il faut leur poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Quand ils disent au pur. Moi, je comprends bien. Pas ça.
Voilà.
Donc, l'eau de village, c'est de l'eau qui sort naturellement des entrailles de la terre. L'eau de village est pure.
Mais cette eau des sources peut être infectée si la source n'est pas bien aménagée, bien entretenue.
Mais il faut aménager les sources. Nous devons avoir honte de dire que nous vivons encore comme des sangliers, mon frère. Nous devons aménager nos sources et ça ne coûte pas cher.
D'accord. Jean des Dieux est à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour aussi à notre invité.
Jean des Dieux, on vous écoute.
Merci beaucoup pour la parole. J'ai un témoignage et une question que j'ai posée aussi à notre invité.
Alors, bon, soyez bref.
À Kikwit, on avait des problèmes de l'eau potable. Mais grâce aux autorités locales, ils ont fait un effort d'aller aménager là où il y avait coupure des robinets. Maintenant, un témoignage que je vais donner vraiment est très capital. Par rapport à notre invité, M. Cyril, qui il a fait quand même un effort avec toute son initiative pour que tout qui puisse quand même aménager vraiment un borne fontaine qui est au niveau des Kanzomi là-bas à Kibangu, qui est en train vraiment de faire quand même quelque chose de service les milliers et milliers de populations qui sont de l'autre côté de Kanzomi. Nous souhaitons vraiment cette louable effort qu'il a fait.
Merci. Merci Jean de Dieu. Merci Jean de Dieu. Amani.
Qui est quand même des gens qui pouvaient...
Merci beaucoup. Amani nous appelle de Bukavu. Bonjour.
Bonjour Jean-Dio Capi et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Amani?
J'ai des petites préoccupations à demander à l'invité et la première question était de savoir est-ce que entre les eaux du lac et les eaux de la pluie, qui peut être, qui peut conseiller et le docteur peut conseiller lequel on peut consommer par rapport à la santé, qui peut nuire la santé humaine. Et la deuxième question, ici chez nous aussi, si vous, l'eau potable est rare. Et bon nombre de populations se réveillent à 4h du matin pour aller chercher des eaux. Et la Régie des eaux a organisé une mécanisme, a prévu un mécanisme de captage de l'eau au niveau du lac Kivu en construisant une barrage. Est-ce que l'eau là peut nous servir et nous aider sur aider la population tout entière et quelles peuvent être les conséquences des eaux du lac Kivu face à la population?
Bien, merci Amani. Docteur Cyril Kiyungu, je reviens à vous, un fils de Kananga qui a posé la question de savoir...
Un trou dans lequel tout...
Oui, docteur Cyril. Docteur Cyril. Donc, oui. Docteur Cyril, un instant. Il y a fils de Kananga qui a parlé du traitement d'eau. Il traite l'eau avec les produits tels qu'Aquatab et autres pour les purifiants d'eau. Alors, après la purification, combien de temps conserver cette eau-là? C'était la question de fils de Kananga.
Oui, oui, on va y revenir. Donc la question des purifications est tout à fait une question technique. Il faudra voir et contrôler ce qu'il est réellement en train de faire avant de lui répondre, parce qu'on ne sait pas quelle est la méthode exacte qu'il utilise. Il y a plusieurs méthodes. Nous conseillons que les traitements des eaux soient entre les mains des experts. C'est là où nous disons la Régie des eaux a des experts qui peuvent former les agents de la zone de santé, par exemple, ça peut nous aider à aller vers les traitements des eaux. Mais dans un premier temps, récupérons les eaux des sources. Là, nous revenons de l'eau par rapport à l'eau des lacs. L'eau des lacs, il me semble-t-il, ne pourra pas être de l'eau potable. Il en va de même pour les rivières qui courent. Ils n'auront pas de l'eau potable parce que ça se trouve dans les bas-fonds et ça recueille tout. L'eau des pluies, c'est de l'eau normalement qui est tout à fait pure, sans compter les déjections qu'il y a dans l'air. Mais c'est de l'eau qui n'a pas des oligo-éléments. L'iode, par exemple, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Donc, vous allez prendre de l'eau sans iode. En prenant de l'eau sans iode, si votre sel que vous consommez n'est pas iodé, vous aurez le goitre. Le goitre, c'est cette masse qui pousse ici en dessous, au cou, et qui gonfle le cou comme ça.
D'accord. Docteur Cyril, on a plus beaucoup de temps. Est-ce que l'eau des pluies est potable?
L'eau des pluies est naturellement potable, mais il n'est pas iodé. Ça va créer d'autres maladies parce que ça n'a pas d'oligo-éléments.
Mais cette eau qui tombe sur la toiture et qui est recueillie ensuite dans les récipients...
Déjà à l'école primaire, monsieur et madame Locapi, on nous a appris que quand il pleut, laissez d'abord l'eau coulée, nettoyer la toiture. Si vous voulez capter l'eau des pluies, mettez une table dehors, après que toute la poussière soit passée, la pluie se calme, mais elle est là, mettez une bassine propre, vous aurez de l'eau potable.
Voilà.
Mais elle ne sera pas iodée.
D'accord. Alors
c'est comme ça qu'on recueille l'eau des pluies.
D'accord. Donc,
on ne va pas recueillir l'eau des pluies dès que la pluie commence, et l'eau est derrière la couleur à ce moment-là.
Docteur Cyril, on n'a plus assez de temps, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On retient que pour améliorer l'accès à l'eau potable, vous avez dit il faut recourir au forage artésien et puis à construire des micro-centrales hydrauliques comme vous l'avez fait à Kikwita.
Utiliser des méthodes simples. Il faudrait qu'on commence par des méthodes simples. On doit aussi explorer nos villages et nos villes, voir les potentialités locales. C'est toute la question.
Voilà, recourir aux méthodes simple parmi on parle aussi du traitement d'eau avec les produits les purifiants d'eau que les gens peuvent utiliser là où
c'est très compliqué, je ne conseillerais pas ça dans les villages, dans les villes, on n'a pas assez de cultures déjà pour l'hygiène élémentaire, compliquer ça avec des méthodes chimique, c'est très compliqué.
C'est très compliqué. Alors quelle
c'est
est la
très dangereux.
Alors quelle est la méthode que vous préconisez? C'est la construction des microcentrales hydrauliques.
Hydrauliques dans les villes, et les petites cités, et aménager les sources d'eau. Chaque village appartient à une zone de santé, et c'est dans un volet de la zone de santé, aménagement des sources d'eau.
Bien, docteur Cyril Kiyungu, expert en développement, intervenant depuis Kikuit, dans les bandes d'Undu, merci et à la prochaine.
C'est à moi de vous remercier.